Bah, je trouve que c'est bien et puis ça va permettre à tout le monde de découvrir bah, possiblement de nouveaux aliments, de manger des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude et qu'on se permettrait pas forcément en temps normal. Et puis ouais non je trouve que c'est très bien, c'est une bonne initiative et puis ça peut permettre de lancer quelque chose.
Ce jeudi 1er avril, l'ENIS, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne et l'Association des ingénieurs ENIS organisaient un marché solidaire en direction de l'ensemble des étudiants de l'école. En cette période difficile et en se rendant compte des difficultés que certains élèves peuvent rencontrer pour bien se nourrir, le service de la vie étudiante de l'école, avec le soutien de l'association L'ENIS, proposait à un faible tarif des paniers fournis par de la ferme au quartier. Écoutons Sylvie Gentilly, secrétaire de l'association ENIS.
C'est l'Association nationale des ingénieurs ENIS, donc, qui a été créée en 1965 à la création de l'école, en fait, par un groupe d'anciens élèves. Donc, elle regroupe tous les ingénieurs diplômés de l'école depuis 1965. À part cette pandémie, on a fait des conférences, on a fait des réunions entre anciens élèves, on a fait justement des rencontres avec anciens élèves et étudiants pour parler de leur parcours professionnel, la sortie de l'école. C'est un échange entre anciens en fait et les étudiants actuels pour s'informer de leur parcours et de leurs possibilités après l'ENIS.
Alors aujourd'hui, la crise sanitaire a fait remonter à la surface de nombreuses choses, et notamment la situation des étudiants qui se trouvent en précarité. Vous avez souhaité mettre en place une distribution de colis alimentaires. Comment est partie la réflexion de ce projet-là ?
Ben c'est parti du service de la vie étudiante, en fait, et puis... qui est justement très en lien avec les étudiants, qui nous a rapporté que certains élèves étaient en difficulté. Donc il fallait trouver une solution et on a lancé donc une collecte auprès de tous les anciens élèves, auprès de tous les ingénieurs, pour justement essayer de faire quelque chose, parce qu'ils sont très attachés à leur école et ils ont toujours des liens très particuliers avec l'école et les étudiants, justement, pour aussi leur trouver des stages et des entreprises et qui sont prêts à les accueillir. Donc voilà, on a fait cette collecte en vue de trouver des solutions pour leur apporter une aide.
Alors, on voit, c'est de la radio, donc on va expliquer ce qui se passe derrière nous. On a un camion qui amène des denrées alimentaires, un camion marqué de la ferme au quartier. Qui sont les partenaires? Comment vous avez développé le réseau sur cette action-là?
Alors, c'est le service de la vie étudiante qui s'occupe de trouver des fournisseurs, en fait, pour essayer d'apporter justement cette aide alimentaire aux étudiants. Donc c'est une association, la Ferme au Quartier, qui regroupe plusieurs fermes, agriculteurs qui nous fournissent en fruits, légumes, œufs, voilà, plusieurs denrées. Et dans l'année, ils nous fournissent également pour, pas que pour les étudiants aussi, mais donc c'est pour ça que ce lien avait été créé et continue, voilà.
Alors aujourd'hui, combien de colis avez-vous prévu?
Alors là, pour cette fois, il y a une centaine de colis qui a été précommandé. Voilà, mais on va voir comment se passe cette collecte. On en a prévu un peu plus justement pour les étudiants qui ne seraient pas inscrits, mais de toute façon, ça va se continuer cette action dans le temps. Donc on verra s'il y a d'autres collectes à faire ou d'autres colis à organiser.
Alors pour les bénéficiaires, quelles sont les conditions entre guillemets pour bénéficier de ces colis-là?
Non, il n'y a pas de conditions de ressources. Pour le moment, c'est tous les élèves qui peuvent bénéficier de ces colis. Il suffit de s'inscrire. Voilà.
Alors première distribution aujourd'hui, quel est le calendrier pour la suite? Est-ce que ça va être une distribution hebdomadaire, mensuelle?
Non, on ne sait pas encore, c'est suivant comment va s'organiser cette première distribution. Si les élèves sont contents, on continuera je pense encore un peu puisque l'association a encore un petit peu de sous devant elle pour grâce à cette collecte, de toute façon. Donc on va voir si on continue ces produits-là ou si on fait d'autres actions par rapport à la demande des étudiants.
Bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec le confinement et tout. C'est compliqué de suivre les cours, mais bon, on essaye de s'en sortir comme un peu. Et pour l'instant, ça va, ça se passe bien. On essaye de suivre tranquillement et de rester tous ensemble et pour bien continuer l'année.
Depuis plus d'un an, nous vivons une période inédite qui fait ressurgir de nombreuses problématiques, comme cette précarité qui touche un grand nombre d'entre nous et donc des étudiants. Nous avons rencontré François-Marie Larouturou, directeur de l'ENIZ, qui nous commente cette situation de son point de vue.
Alors nous savons, à l'ENIZ, nous sommes un établissement de petite taille, il n'y a que 1000 élèves, donc les difficultés sont peut-être un peu plus visibles parce qu'on est plus proche de nos élèves, on est très proche d'eux, on en connaît beaucoup. On a constaté plusieurs choses, on a constaté cette difficulté financière, quelques élèves, ils ne sont pas isolés, de nombreux élèves qui ont des difficultés financières, bien se nourrir, acheter les produits d'hygiène, avoir un peu de loisirs, aller à la pharmacie, se déplacer, c'est difficile. Parce qu'ils ont perdu les quelques petits jobs, quelquefois deux, qui leur permettaient d'arrondir les fins de mois. Quelques-uns, c'est même plus dramatique, c'est carrément le paiement du loyer qui est mis en jeu. Donc on a essayé d'aider ces élèves sous différentes formes, avec différentes bourses mises en place par l'établissement. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres formes de précarité, la précarité numérique. Donc là, on aidait nos étudiants, quelquefois isolés, dans un coin géographique où il n'y a pas beaucoup de réseaux, etc. On les a clairement aidés financièrement ou par des conseils, avoir le bon ordinateur, le bon réseau pour pouvoir se connecter aux cours, aux TD, charger les bons logiciels, bonnes opérations, quelquefois ça demandait beaucoup de capacités numériques. Et puis il y a d'autres formes de difficultés qui sont un peu plus délicates, d'ordre psychologique, liées à des confinements quelquefois difficiles, des conditions familiales difficiles, la perte de liens. On trouve des élèves qui sont très isolés, qui aiment sortir, la perte de rythme aussi. C'est terrible de travailler tous les jours. Avant, le vendredi soir, le mercredi soir, on faisait un after work, c'est-à-dire qu'on buvait une bière en discutant avec tout le monde, y compris le directeur. Le vendredi, c'était la sortie le soir, il y avait un rythme. Ce rythme est perdu. Donc on essaie de mettre en place des événements qui rythment, celui d'aujourd'hui aussi, ça, on se veut le début d'un rythme, de dire de temps en temps un événement qui est joyeux, qui est festif, qui est solidaire aussi. Hein. Aujourd'hui, on distribue sans condition de ressources, d'être boursier ou pas, on distribue à tout le monde de quoi faire de bonnes choses à manger, avec des légumes, des fruits du territoire, pour que tout le monde puisse en profiter. Après, il reste la partie pédagogique, comment apprendre à faire des bonnes râpées, si on parle de spécialité stéphanoise, à partir des produits qui sont donnés, offerts aujourd'hui, grâce à la générosité des ingénieurs diplômés de l'ENIZ, il y en a à peu près 6000 dans le monde entier. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça, montrer un geste de solidarité très fort, qui est ponctuel, qui est amené à se renouveler, en particulier je remercie les médias que vous êtes, parce que grâce à ça, il y a d'autres anciens, d'autres ingénieurs ENIZ qui vont être informés de cette opération, qui vont cotiser dans cette cagnotte et qui permettront de la renouveler pour qu'on continue à bien manger, à se voir. Et puis je crois que c'est important ce lien. Il n'y a pas que l'aspect financier, on offre 15, 20, 30 euros de légumes et de fruits, mais il y a un vrai lien avec le territoire, avec les agriculteurs, il y a un vrai lien avec les gens qui viennent, qui échangent. Donc on essaie de protéger ce lien qui est vraiment en danger d'être détruit.
Vous parliez des étudiants qui se retrouvaient dans des situations compliquées à cette période-là, hein, la fracture numérique aussi, pas tous équipés à la maison, interdiction de venir dans des lieux où l'on peut trouver ces outils. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou simplement discuté avec vos équipes, que ce soit les équipes administratives, les équipes techniques ou encore les enseignants? Est-ce que vous avez demandé à ce qu'il y ait un regard particulier porté sur des situations qu'on pouvait remarquer? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est fait au sein de l'ENIZ?
Alors, très concrètement, oui, depuis un an, depuis quelques mois, en particulier depuis le 1er janvier, depuis 3 mois, de façon beaucoup plus fine, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'élèves. Hein. La durée de ce confinement à répétition, qui n'est pas un confinement, etc., des ordres et des contrôles, rend la vie plus difficile. Donc on l'a fait bien sûr l'année dernière, on avait même interpellé les élèves avant qu'ils rentrent dans l'école, avec leurs parents, dans une assemblée générale en visio, 15 jours avant qu'ils rentrent à l'école. Je leur dis, vous allez rentrer dans un établissement où le Covid, on le prend en main. Ou vos formations, on les prend en main. Ou la découverte de vous-même, on la prend en main. Mais depuis, très clairement, que la situation se dégrade un petit peu, on aborde cette question toutes les semaines en comité de direction. C'est les 8 personnes qui dirigent l'établissement collégialement autour de moi. Et puis, on a des services de psychologues, des services d'infirmières, des services de médecins du travail, une assistante, des anciens élèves, des enseignants. On a mis en place des groupes d'enseignants qui sont là pour aider les élèves, les aider sur la méthode de travail. Parce que ce n'est pas facile de travailler quand on a déjà 4 ou 5 cours en distanciel, comme on dit, sur un ordinateur. quelle est la bonne méthode de travail. On leur apprend à nos élèves, on leur apprend à souffler, parce que de temps en temps, ils ont besoin qu'on les conseille. Sortez, soufflez, ce week-end, ne travaillez pas. Moi, directeur, j'encadre de très près une douzaine d'élèves, puisque chaque élève est accompagné, c'est une propriété de l'école, que chaque élève de première et deuxième année est accompagné presque à la semaine, par un enseignant, par un personnel de la direction, etc. Donc il m'arrive de dire aux élèves, non, à Noël, par exemple, j'ai dit aux élèves, arrêtez de travailler. Prenez 3 jours, allez voir votre chérie, marchez, regardez un film avec vos parents le soir à la télé puisqu'il n'y a pas de cinéma, mais prenez soin de vous, il n'y a pas que le travail. Pour bien travailler, il faut prendre soin de vous, découvrir vos besoins, mieux dormir, mieux manger, c'est le cas de l'opération d'aujourd'hui, voilà, ça passe par beaucoup de conseils. Donc aujourd'hui, pour répondre clairement à votre question, il y a une attention qui est quotidienne. Tous les jours, l'infirmière voit le directeur. Tous les jours, le directeur voit le service scolarité. Tous les jours, on fait le point des élèves qui sont en difficulté. Et pas seulement ceux qui sont en grande difficulté. Tous les matins, il y a quelqu'un dans le hall, c'est souvent mon cas, pour voir un peu la tête des élèves, détecter quelqu'un qui a moins le sourire, qui marche moins bien, voir quelles sont les difficultés. On a une attention aussi très forte sur les absences, pour voir qu'est-ce que l'absence cache. Est-ce que c'est juste un petit bobo, un petit mal au ventre? Est-ce que c'est quelqu'un qui risque de décrocher, etc. On a beaucoup aussi, on a bientôt des jurys, on apporte beaucoup de soins à examiner non seulement le parcours académique de l'élève, mais les difficultés qu'il a eues depuis un an, à cause du Covid ou à cause d'autres choses. Hein, chacun c'est son itinéraire personnel. Mais voilà, on est très très vigilant là-dessus. Oui.
Alors avec toutes les annonces faites, il faut faire le tri. Hein. Je pense qu'on prend tous les annonces faites par l'État. On prend ce qui nous concerne directement, on élargit par la suite. Dans le cadre des études supérieures, au niveau des examens, qu'est-ce que ça change finalement dans, on arrive en fin d'année hein, avec des échéances à venir. Ici, ce sont aussi des élèves qui sont en stage. Peut-être des entreprises dans lesquelles ils étaient en stage ont fermé à un moment donné, ou un manque d'activité fait qu'ils étaient en chômage partiel. Est-ce que ça aussi, ça va changer la façon d'évaluer?
Alors, on a eu en effet un nombre de cas particuliers qu'on ne peut pas énumérer ici. Quelques stages qui sont arrêtés, mais heureusement, je remercie. J'avais ce matin une réunion avec les gens de Mécaloire, qui est un cluster de 60 chefs d'entreprise en mécanique. Je les remercie ce matin parce que là, on a des élèves qui partent en stage découverte le 25 mai. Tout le monde à trouver un stage. Ça veut dire que le monde industriel, que ce soit dans le génie civil, dans le génie sensoriel, dans le génie mécanique, heureusement, on est au cœur d'un territoire très fort, on a cette aide du milieu industriel qui garde sa vision d'avenir. Il faut former des jeunes. Donc, pour faire suite à votre question, très clairement, on est dans une phase de contrôle continu quand même. On n'a pas des examens comme à l'université qui sont tous pendant 15 jours à la fin. Il y en a beaucoup pendant une certaine période, c'est sûr. Mais on a des contrôles tout au long de l'année et on a décidé de les faire en présentiel avec l'accord du rectorat, le représentant du ministère. Mais on a décidé de les faire sur place. C'est beaucoup plus simple. On est certain du résultat. Chacun, il y a des moments où on doit travailler en équipe. Il y a des moments où on doit travailler tout seul pour montrer ses nouvelles connaissances, ses nouvelles compétences. Donc ce contrôle continu se fait. Le contrôle un peu plus lourd en fin de semestre se fait aussi. Et les jurys se rassemblent normalement, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent en présentiel parce que c'est important d'échanger. Un tel a telle difficulté, oui, mais là, il a montré beaucoup de bonne volonté. Il est un peu moins bon en mathématiques, mais il est bon en informatique, donc ça compense ce qu'on appelle une unité. Voilà, donc il y a ce travail qui est plus fin qu'aujourd'hui, qui demande un investissement extraordinaire du corps enseignant, que je remercie. C'est inimaginable. On a peine à imaginer pour vos auditeurs le surcroît de travail pour les enseignants qui a été multiplié quelques fois par 2. C'est du travail jour et nuit. Pour parler que du travail pédagogique, sans parler de l'assistant dont je parlais, aux élèves, aller les chercher, les amener à mieux se connaître, les amener à bien se soigner. Quelquefois, on est obligé de dire aux gens, va te soigner, on va t'aider, on va te soigner, etc. Donc ce travail gigantesque du corps enseignant continue et on aura des passages de première en deuxième année ou de troisième en quatrième année, etc., qui auront été validés par le jury dans des conditions très proches de l'habituel. La notion directrice, c'est que le diplôme d'ingénieur que nous délivrons, il n'est pas au rabais. On doit former des ingénieurs qui soient des experts technologues, qui soient multiculturels. Il faudra avoir le même niveau d'anglais. Avec le Covid, il n'est pas question d'avoir 5 points de moins au TOEIC. On doit avoir des ingénieurs qui soient bilingues, qui puissent s'exprimer, rencontrer des Russes, des Chinois, des Américains du Sud ou du Nord, peu importe, des gens de Sibérie ou de Nouvelle-Zélande. Il n'y aura pas de jury au rabais. Et nos élèves sont clairement informés de cela. On met en place les moyens pour les aider, on met en place des cours complémentaires, des cours de rattrapage, des informations sur les méthodes de travail, on met en place du parrainage par les élèves, etc. Mais le diplôme d'ingénieur doit garder sa valeur.
Alors revenons à ce qui nous amène ici aujourd'hui dans cette enceinte de ce campus, cette distribution de denrées alimentaires. Quelle est la suite?
Pour le moment, on a essayé deux choses. Ce qu'on voit ici, c'est l'aboutissement d'une espèce de chaîne de solidarité avec des maillons très forts, les ingénieurs ENISE, la scolarité, les élèves du club développement durable qui sont là pour aider, etc. On a fait dans le passé des opérations plus larges, par exemple, pour venir en aide aux épiceries solidaires à Gorae qui sont en place et qui aident, elles, tous les étudiants de Saint-Étienne et même de tout le département. Donc ça, c'est une opération un peu spécifique dans la mesure où vous voyez là les camions qui déchargent des poireaux, des carottes, des fruits, etc. de notre territoire. Il y aura d'autres actions. Celle-ci sera renouvelée puisqu'on a des fonds importants. La générosité des ingénieurs ENISE est importante. Et on a aussi des réflexions pour aider, par exemple, les jeunes à partir en stage avec une bourse, une aide financière ou à partir en mobilité parce que ça paraît... On parlait de multiculturalité, d'être bilingue avec le niveau de TOEIC qui ne sera pas baissé. Mais il faut aider les jeunes. On a des gens qui sont partis, qui sont actuellement en Suède, qui sont surtout en Europe. Il y a moins de mobilité vers l'hémisphère sud, vers l'Amérique du Sud, vers la Sibérie, etc. Mais on envisage déjà avec d'autres organismes. Donc, on n'envisage pas d'utiliser la banque alimentaire ou des fonds comme ça, mais par exemple le Cobati, qui est une association de gens passionnés par le bâtiment et les valeurs du BTP, est en train de mettre en place des bourses pour aider nos jeunes élèves à faire face aux frais financiers un peu inhabituels qui sont engendrés par les stages découvertes qui vont commencer pour le quatrième semestre, les fins de deuxième année, le 25 mai prochain. Donc voilà, toutes les bonnes idées sont prises, sont analysées chaque semaine et on retient celles qui correspondent bien aux besoins de nos élèves, en tout cas à la perception qu'on en a. C'est une difficulté de décoder un peu, d'analyser, d'apprécier la justesse de telle ou telle opération. Je crois qu'aujourd'hui, en distribuant de quoi bien manger avec des produits du terroir et en aidant les élèves, l'autre jour, j'étais près de la machine à café qui est à côté de nous, là, je leur expliquais ma recette de râpé, il n'y a rien de plus simple. Mais voilà, les aider à prendre de nouvelles habitudes alimentaires aussi. Ils ont tendance à manger un snack, un truc sucré, plein de chocolat, de caramel, c'est excellent, mais c'est pas avec ça qu'on est en bonne santé toute sa vie. Voilà, donc on va un peu vers ce changement d'habitude et plusieurs actions qu'on mènera dans le futur. On a envisagé par exemple de les aider à faire du vélo. La métropole de Saint-Étienne a mis en place quelque chose qui rend notre action obsolète, puisque déjà il y a la gratuité pour les vélos, donc on va trouver d'autres choses, mais par exemple les ingénieurs organisent des sorties le week-end dans le Pilat, parce que s'oxygéner, aller au soleil, découvrir les richesses de la nature autour de nous, ça fait partie de ce qu'on peut amener à nos élèves.
J'ai reçu un mail, chaque semaine on reçoit toujours un mail par rapport à des aides pour les étudiants à Saint-Étienne ou à l'ENISE. Et je pense que ça c'est bon, c'est bon. On est dans une crise à cause de la Covid et tout ça. Donc pour moi c'est génial pour les étudiants. Surtout nous qui nous habitons en face de l'ENISE, qui vient d'autres pays. Donc c'est une excellente aide pour nous.